êtes sur Radio Orient, il est midi, le point de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition en France, neige et verglas font 5 morts sur les routes et de fortes perturbations. 6 aéroports fermés ce matin dans l'ouest du pays. Le gouvernement évoque un épisode sous-évalué. Une nouvelle dégradation est attendue mercredi. Nicolas Maduro, devant la justice américaine, le président vénézuélien a plaidé non coupable alors que la présidente par intérim Delcy Rodriguez a prêté serment. L'opposante Maria Machado annonce son retour au plus vite et revendique une victoire écrasante en cas d'élection libre. Notre dossier du jour consacré au grand froid et un coup de projecteur sur la situation des sans-abri avec Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire français. On parlera aussi des ambitions de Donald Trump et ses projets d'intervenir dans plusieurs pays, dont l'Iran. Nous entendrons Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Nicolas Maduro comparaissait hier devant le tribunal fédéral de Manhattan à New York. Il a plaidé non coupable lors d'une audience d'une trentaine de minutes dans le cadre d'accusations de trafic de drogue. Le président vénézuélien déchu a affirmé avoir été kidnappé par les forces américaines et s'est dit prisonnier de guerre, assurant qu'il était toujours le président de son pays. Dans le même temps, à Caracas, des milliers de personnes ont participé à une marche en soutien à Maduro, alors que la vice-présidente Delcy Rodriguez prêtait serment en tant que présidente par intérim. 2 jours après la capture de Nicolas Maduro, l'opposante Maria Corina Machado dit vouloir rentrer le plus vite possible dans son pays. Dans un entretien à Fox News, la prix Nobel de la paix 2025 critique Delcy Rodriguez, investie présidente par intérim, et affirme que l'opposition gagnerait avec plus de 90% des voix en cas d'élection libre. Israël a mené hier des frappes sur le sud et l'est du Liban après avoir ordonné l'évacuation de plusieurs villages, affirmant viser le Hezbollah et le Hamas. Ces frappes interviennent alors que Beyrouth s'est engagé à désarmer le Hezbollah chiite. Une réunion gouvernementale à ce sujet est prévue ce jeudi et une rencontre du comité de surveillance du cessez-le-feu qui comprend en plus du Liban et d'Israël, les États-Unis, la France et l'ONU se tiendra mercredi. L'armée israélienne autorise la surveillance électronique de personnes sous restriction administrative de mouvement en Cisjordanie occupée. Cette mesure, qui vise notamment des colons violents, intervient alors que les violences en Cisjordanie ont augmenté depuis le 7 octobre 2023. Selon les médias israéliens, il s'agirait d'un bracelet électronique pour vérifier le respect de ces restrictions. Le chef de la diplomatie syrienne Al-Sheibani participe à une nouvelle session de négociations avec Israël sous médiation américaine, les premières depuis septembre. Selon l'agence Sana, les discussions qui se tiennent à Paris se concentrent sur la réactivation de l'accord de désengagement de 1974 et portent sur un retrait des forces israéliennes des zones qu'elles ont occupées après la chute de Bachar al-Assad. Au Soudan, une frappe de drone a tué 10 personnes à Al-Obeid, dont 7 enfants. La ville, tenue par l'armée, mais encerclée par les paramilitaires des forces de soutien rapide, est stratégique entre Khartoum et le Darfour. Le courant y a été coupé dimanche après une autre attaque visant la centrale électrique. Le conflit qui oppose l'armée au FSR depuis avril 2023 a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde. En Iran, la justice a prévenu qu'elle ne ferait preuve d'aucune indulgence envers les émeutiers au 9e jour d'un mouvement de contestation. La contestation a débuté le 28 décembre à Téhéran, menée au départ par des commerçants sur le coût de la vie. Elle touche maintenant au moins 45 villes avec des revendications désormais politiques. Policiers et polices anti-émeutes étaient déployés hier aux principaux carrefours de Téhéran, tandis que plusieurs universités ne dispensent plus leurs cours en ligne. En France, neige et verglas ont provoqué de lourdes perturbations et au moins 5 morts sur les routes. 3 personnes sont décédées dans 2 accidents liés au verglas dans le sud-ouest. Un chauffeur VTC a été retrouvé mort après une chute dans la Marne, en région parisienne, alors qu'un autre décès a été recensé lundi dans une collision en Île-de-France. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, reconnaît que l'épisode a été un peu sous-évalué par Météo de France, notamment autour de Paris, même si des mesures comme le sablage anticipé ont été mises en place. Les 26 départements placés en vigilance orange ne le sont plus depuis 10 heures, mais Météo France prévient qu'une nouvelle perturbation neigeuse avec localement des pluies verglaçantes est attendue ce mercredi sur une large moitié nord du pays. Par ailleurs, 6 aéroports français sont fermés au trafic ce matin dans l'ouest. Par ailleurs, donc l'ouest et le nord du pays, cependant, aucun vol n'est supprimé dans les aéroports parisiens. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. On se retrouve dans quelques instants pour le dossier du jour. Merci d'être à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour consacré à l'épisode de froid que connaît la France. Les températures chutent et les premières victimes du froid sont les personnes sans abri ou celles qui vivent dans des habitations précaires. La secrétaire générale du Secours populaire français, Henriette Stenberg, lance un appel à la mobilisation.
Le Secours populaire ne peut évidemment pas couvrir l'ensemble des besoins, mais il peut faire tout le possible pour aider ceux et celles qu'il rencontre, et il fait un appel, il lance un appel auprès de l'ensemble de la population, d'abord pour qu'elle se mobilise et qu'elle regarde autour d'elle si elle peut directement faire quelque chose, mais aussi pour que le Secours populaire, mais aussi les collègues puissent agir au mieux de leurs possibilités. Les services publics ont à le faire, mais nous savons à quel point la situation est préoccupante, et elle est aussi préoccupante dans des logements mal chauffés, pas chauffés, et ceci concerne la ville, mais aussi autour des villes et très lourdement nos campagnes.
Est-ce que vous demandez notamment à ce que l'État mette à disposition ces bâtiments vacants et réquisitionne les logements vides ?
Alors, Le Secours populaire ne va pas donner des indications concrètes, techniques à la puissance publique. Nous pensons qu'elle a les capacités de procéder à ces évaluations. Mais évidemment, nous demandons, et nous l'avons demandé dès les premières heures du froid, c'est pas juste maintenant, que soient ouverts tous les lieux chauffés pour pouvoir abriter les personnes qui sont dehors. Mais en même temps, il nous faut attirer l'attention, y compris de la puissance publique, et au premier chef de la puissance publique, sur les personnes qui sont en difficulté avec, on va dire, les entreprises qui fournissent de la chaleur et qui ont eu des difficultés à honorer leurs factures. Nous ne pouvons pas nous limiter aux personnes qui sont dans la rue, même si pour elles la situation est tragique. Il faut avoir une vision plus globale des conditions et des conséquences de la pauvreté dans notre pays pour les familles, pour les enfants, pour les personnes âgées, parce que personne n'en parle, mais quand elles ne peuvent pas payer le chauffage, c'est pas pour ça qu'elles vivent mieux. Et donc il y a vraiment un appel à la solidarité pour que ces questions soient prises en compte, et pas seulement lorsqu'il y a des temps sibériens. Mais quand il y a des temps sibériens, là il y a des mesures d'urgence complémentaires à prendre. C'est pas nous qui allons les dicter, c'est pas notre métier, mais en revanche nous appelons les uns et les autres à se sentir personnellement responsable de ce qu'il est possible de faire.
Lors d'une canicule, une des premières canicules significatives en France, la population avait été sensibilisée. Cet appel à la solidarité, notamment vis-à-vis des aînés, avait été lancé. Il y avait alors eu une prise de conscience. Est-ce cette même prise de conscience que vous appelez de vos voeux aujourd'hui ?
Absolument, absolument, bien sûr. Je veux dire, on peut mourir parce qu'on a soif et on a pris une insolation, mais on peut mourir et sans souffrir, ce qui veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'alerter. Et donc il doit y avoir dans le voisinage des uns et des autres nous savons qui peut être en difficulté. Et le fait de prendre, de tenir compte de son voisinage, des amis, de la parentèle étendue, que sais-je encore, ce doit être une préoccupation, si je puis dire, civique. Mais au-delà de la préoccupation personnelle des uns et des autres, et le Secours populaire y contribue directement, il y a la responsabilité de la puissance publique qui doit prendre en compte l'intégralité des populations, et pas à chaque fois, c'est seulement quand le problème se pose, que d'un seul coup on se dit « ah ben oui, on n'y avait pas pensé ». Ceci dit, si on n'y a pas pensé, il est tout juste temps de prendre les mesures qui sont nécessaires et qui appartiennent à la puissance publique.
Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire français, au micro de François-Xavier de Calonne. Jusqu'où ira Donald Trump? Après le Venezuela, le président américain déclare qu'il s'occupera du Groenland dans 2 mois. Il menace aussi Cuba, la Colombie et l'Iran. L'Iran où des manifestations se poursuivent et que Donald Trump a menacé dimanche de frapper. Écoutez à ce propos Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
On l'a lu il y a quelques temps à travers un article du Wall Street Journal évoquant un plan secret rendu public qui évoquerait le fait qu'Ali Khamenei, le guide suprême, préparerait un départ précipité ou en tout cas préfigurerait à la manière du départ du président syrien déchu Bachar al-Assad de Bagdad en décembre 2024, une fuite vers Moscou. Les signaux avant-coureurs sont aussi à retrouver à travers une décision prise il y a à peu près 4-5 jours de la Banque centrale iranienne, préparant un possible effondrement du système bancaire, financier et monétaire iranien. Il faut avoir à l'esprit que les premières manifestations du 28 décembre n'étaient pas des manifestations d'hostilité contre le régime ou des manifestations estudiantines, comme on a pu les connaître en 2009 ou en novembre 2019, mais bien une mobilisation du bazar, donc des marchands qui sont des soutiens d'ailleurs du régime des Mollahs, qui se plaignaient de la chute abyssale du rial. 90% de sa valeur a été diminuée par une inflation galopante et la cherté de la vie suite évidemment, au maintien des sanctions depuis maintenant une dizaine d'années.
Donc on entend à travers votre propos, le président des États-Unis pourrait utiliser ce mouvement de contestation initialement lié au coût de la vie, hein, ce mouvement à partir du 28 décembre de Téhéran, pour faire tomber le régime des Mollahs.
Et il est évident qu'un certain nombre de manifestations ne sont pas si spontanées que cela, et qu'elles ont pu être non pas téléguidé, mais en tout cas encouragé à travers une mobilisation, comme on l'a pu le voir en juin 2025, après les frappes israéliennes contre les gardiens de la Révolution, où des manifestants étaient sortis dans la rue, évidemment avec l'idée sur laquelle, après le ciblage du dispositif de sécurité, c'est par la rue, évidemment, que les choses devaient se faire. Les États-Unis soutiennent activement une alternative, qui est celle du retour du fils du Shah, Reza Pahlavi, qui est notablement soutenu par les services de renseignement américains. De là à dire que Donald Trump avait envisagé une mobilisation aussi forte, là, peut-être qu'il y a une interrogation, car le mouvement a pris une ampleur sans doute inespérée. 80 villes désormais, 17 provinces, avec des manifestations un peu partout, et désormais, et c'est la grande nouveauté, une mobilisation contre le régime lui-même.
Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, il répondait à François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mohamed Bezri à la réalisation. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.